VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manirakiza avec vous pour développer l'actualité de ce 3 septembre 2015. 17h à Bujumbura au Burundi, 13h ici à Washington. D'abord l'actualité africaine. Au moins 30 morts dans de nouvelles attaques dans des islamistes nigériens de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Les précisions de Lionel Gahima.
La localité camerounaise de Kerawa, à la frontière nigériane, a été la cible ce jeudi d'un double attentat suicide. La première explosion visait un marché local et la seconde a eu lieu près d'un camp militaire. Selon des sources locales citées par l'AFP, il y aurait eu au moins 30 morts et une centaine de blessés. Un responsable gouvernemental rapporte de son côté que les deux attaques ont été menées par des femmes. Kerawa a été en février dernier le théâtre des violents affrontements entre les troupes camerounaises et les militants de Boko Haram. Les insurgés mènent de fréquents raids contre des villages proches de la frontière. Ils sont aussi accusés d'être responsables d'une série d'attentats suicides qui avaient fait des dizaines de morts en juillet à Maroua, capitale de l'extrême nord camerounais. Le Cameroun a déployé des milliers de soldats dans la région pour faire face à la situation.
Lionel Gahima, les militaires nigériens qui ont repris la ville de Gamboru à la frontière avec le Cameroun sont allés serrer la main aux soldats camerounais et tchadiens sur un pont frontalier emblématique de la guerre contre Boko Haram. Et sept Maliens, des djihadistes présumés, ont été arrêtés en Côte d'Ivoire, puis extradés vers le Mali. Ils seraient tous membres d'une unité combattante dirigée par une certaine Souleymane Keïta. Et au Burundi, les ministres de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense nationale et de la sécurité publique ont appelé les citoyens à remettre les armes qui causent l'insécurité dans les quartiers contestataires. Ils font un clin d'œil aux Burundais de se désolidariser ces 3 prochaines semaines de ces groupes armés qualifiés de criminels. Ceux qui vont remettre ces armes ne sont pas poursuivis par la justice, ont-ils dit. Les précisions avec notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Pour la première fois, 4 ministres ont fait une conférence publique commune pour pointer du doigt les hommes armés qui causent l'insécurité dans les quartiers contestataires du 3e mandat. Dans un délai ne dépassant pas 3 semaines, ces personnes armées qui tirent la nuit venue ont été priées de remettre leurs armes aux responsables en charge de la sécurité. Ainsi, ils ne seront pas condamnés par la justice burundaise. Le ministre de la Sécurité publique, Alain-Guillaume Boyoni, a indiqué que d'autres mesures seront prises pour garantir la sécurité des citadins.
Premièrement, c'est un travail synergique que l'on fait à travers les comités mixtes de sécurité humaine qui sont composés effectivement par les forces de l'ordre, l'administration, la justice et la population. Et cela effectivement se passe à travers les missions dévolues à chacune des composantes de ces commissions mixtes de sécurité. Il y a des missions qui sont dévolues à la défense, à la sécurité, il y a des missions qui sont dévolues à l'administration du territoire, à la justice. Il y a des déploiements qui sont faits, il y a des missions de fouilles perquisitions qui sont faites, il y a des missions de prévention qui sont faites par les forces de sécurité, les forces de défense en cas de besoin. Il y a d'autres mesures qui ne peuvent pas vous être communiquées. Ce sont des mesures qui se connaissent en fait après les faits.
Depuis les manifestations du mois d'avril dernier, des centaines de personnes ont été arrêtées et sont actuellement détenues dans les différentes prisons du Burundi. Mais parmi elles, il y aurait des innocents. Pour la ministre de la Justice, le moment venu et après étude des différents dossiers, les innocents seront libérés conformément à la loi Laurentine Kanyana.
Sur cette question alors, je vous demanderai de patienter un peu. On est à l'œuvre, on va continuer à travailler sur ces dossiers et on va essayer de respecter les délais prescrits par la loi. Que je sais, c'est qu'il n'y aura personne qui sera retenu par la justice, qui sera condamné alors qu'il est vraiment innocent. L'innocence est prouvée par le juge, mais aussi, je vous ai dit que le ministère public instruit à charge et à décharge. Tout va passer par la procédure prescrite par la loi.
Depuis 2 jours, l'insécurité est devenue grandissante dans certains quartiers de la ville. Des tirs nourris sont observés à Jabé, Nyakabiga et Moussaga. Cet ultimatum des autorités de Bujumbura est donné au moment où 4 personnes ont été tuées et des dizaines de personnes sont aujourd'hui entre les mains de la justice. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
En RDC, les représentants de l'ONU, de l'Union africaine, des États-Unis, de l'Union européenne, de la Belgique pour la région des Grands Lacs appellent à des mesures urgentes pour la tenue d'élections transparentes et crédibles dans ce pays. Les détails avec Eddy Issango.
Dans une déclaration commune publiée ce jeudi, les envoyés spéciaux et représentants internationaux soulignent la nécessité pour les autorités congolaises d'agir pour garantir un espace politique ouvert, la liberté des médias ainsi que la mise en place d'un cadre permettant une participation équitable de toutes les parties au processus électoral. Autre souci souligné dans la déclaration, les respects des délais constitutionnels mais aussi la réussite de la première transition démocratique dans le pays. Les représentants de la communauté internationale appellent par conséquent tous les acteurs politiques à œuvrer en vue de parvenir rapidement à un accord sur les conditions d'un processus crédible. Les élections provinciales et locales doivent se tenir en RDC à partir d'octobre, suivies de la présidentielle et des législatives en novembre 2016. Le climat est tendu dans le pays. L'opposition soupçonne le président Joseph Kabila de vouloir se maintenir à son poste au-delà de la fin de son mandat, alors que la Constitution lui impose d'abandonner ses fonctions fin 2016. M. Kabila a appelé au dialogue, mais une grande partie de l'opposition n'en veut pas.
Eddy Issango, le Bénin fait partie des pays de la sous-région ouest-africaine qui, sous l'impulsion de la libération des ondes, enregistre un nombre impressionnant de journalistes, pour la plupart à peine sortis de l'université ou diplômés à la recherche d'un emploi. Mais leurs conditions de vie et de travail ne sont pas des meilleures, surtout ceux de la presse privée, qui doivent fournir plus d'efforts pour un salaire de misère. En Centrafrique, selon le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, la jeune fille qui avait été victime d'abus sexuels, a donné naissance à un enfant en avril dernier. Des soldats français de l'opération Sangaris étaient accusés de viol. Et devant la CPI, Bosco Ntaganda, ancien chef rebelle congolais, a brièvement plaidé non coupable. C'était hier lors de la première journée du procès. Depuis sa reddition en 2013, la procureure Fatou Bensouda avait détaillé hier les accusations retenues contre M. Ntaganda, qui a gardé sa fine moustache emblématique et notamment évoqué l'organisation à grande échelle systématique de viols sur la population civile et au sein de sa propre milice à prédominance Emma, qui visait, selon l'accusation, les populations perçues comme appartenant aux ethnies Lindou, Bira et Nandé. Aujourd'hui, c'est la défense qui s'est exprimée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ailleurs dans le monde, le président du Guatemala, Otto Pérez, a démissionné. Il était accusé de corruption et risquait d'être destitué après avoir perdu son immunité. Les précisions de Dili Diko.
Cette décision survient quelques heures seulement après le lancement d'un mandat d'arrêt lancé par la justice contre M. Pérez, un général en retraite de 64 ans. Il avait été privé mardi de son immunité par un vote à l'unanimité du Parlement, une mesure inédite dans l'histoire du Guatemala et célébrée par une foule de citoyens selon l'AFP. Dès mardi soir, la justice lui avait interdit de sortir du territoire et mercredi, la Cour constitutionnelle a rejeté ses recours visant à faire suspendre la procédure. Dans ce dossier, son ancienne vice-présidente Roxana Baldetti, démissionnaire en mai, est également poursuivie et déjà en détention provisoire. Otto Pérez est accusé par le parquet et une commission de l'ONU contre l'impunité d'avoir dirigé un système de corruption au sein des douanes via lequel des fonctionnaires touchaient des pots de vin pour exonérer de taxes certaines importations. La procédure à son encontre survient à un moment de mobilisation populaire sans précédent dans ce pays pauvre d'Amérique centrale et à quelques jours seulement des élections prévues dimanche auxquelles M. Pérez ne pouvait se présenter, la Constitution n'autorisant qu'un seul mandat. C'est théoriquement son vice-président, Alejandro Maldonado, qui doit le remplacer.
La police turque a interpellé jeudi 4 passeurs présumés de nationalité syrienne après le naufrage qui a causé la mort de 12 migrants à destination de la Grèce, parmi lesquels un enfant de 3 ans dont les photos ont fait le tour du monde. Et l'un des plus courts passages maritimes entre la Turquie et l'Europe coûte plus de 1 000 $ américains aux candidats à l'exil pour traverser donc la Turquie vers l'Europe. Et entrer légalement en Hongrie au risque de devoir demeurer dans ce pays ou remettre une nouvelle fois son destin entre les mains de passeurs dans l'espoir de rejoindre finalement l'Allemagne. À la frontière serbo-hongroise, le dilemme déchire un groupe de migrants irakiens. Et la France, l'Allemagne vont transmettre à Bruxelles des propositions commune pour organiser l'accueil des réfugiés, une répartition équitable en Europe et rapprocher les normes pour renforcer le système d'asile européen, a annoncé jeudi la présidence française. C'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Le prochain dans 20 minutes. Au revoir.